الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Aujourd'hui, بإذن الله تبارك وتعالى, qu'est-ce que nous allons faire? On va parler de ce qui se fait à Médine et ce qui ne se fait pas à Médine. Aujourd'hui, on va parler de la manière de faire le Hajj. Premièrement, en ce qui se concerne le Médine, la première des choses, c'est la personne qui va à Médine, il ne va pas visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islam, on ne voyage pas pour visiter la tombe de qui que ce soit. On n'est pas les adorateurs des tombes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné qu'on ne prend le voyage que pour trois endroits pour les ibad. La mosquée sacrée de la Mecque, sa mosquée à lui, et la mosquée de l'Aqsa. À part cela, un musulman, il ne voyage pas vers un endroit pour les ibad. Donc, à part ces trois endroits où on voyage pour l'adoration, il n'y a aucun voyage que le musulman fait en tant qu'adoration. Sauf si c'est un safar de Nuzha, pour visiter, pour se détendre. S'il respecte le règle, ce voyage-là, il est halal, sinon il est haram. Le fait de visiter la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas partie du hajj. Celui qui va à Mecca, il fait son pèlerinage et il rentre, son hajj, il est complet, complet, complet. C'est une occasion, comme tu es à la Mecque, Médine, c'est à côté, tu vas profiter d'aller là-bas, de visiter la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de prier dedans. Car la prière dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle vaut 1000 prières, selon n'importe quel autre endroit des mosquées, sauf le Masjid al-Haram. Si on a su ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On rentre dans la mosquée comme on rentre dans toute autre mosquée. On rentre avec le pied droit et on fait les du'as. Après ça, tu vas faire 2 rak'at de salutation de la mosquée. Si il n'y a pas trop de monde, c'est bien de faire le rak'atain dans l'ordre sharif. C'est l'endroit qu'il y a entre la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire où il est enterré, la maison d'Aïcha, et son minbar. Il y a un jardin, des jardins du paradis. Il y a une vertu à prier dans cet endroit-là, à lire le Coran dans cet endroit-là, plus que dans d'autres endroits de la mosquée. À condition que tu ne fasses pas du mal aux gens, tu ne pousses pas les gens. Si pour gagner quelques hasanats en plus, tu vas prendre des milliers de seyyi'at, il ne faut mieux même pas que tu rentres. Sache que de prier dans les premiers rangs, ça a plus de récompense quand tu pries dans les premiers rangs en groupe que de prier dans le rawda. Pour les prières surrogatoires, oui, tu vas faire de rak'at dans l'ordre. Fasse le salut au prophète Ali salatu wassalam et à Abu Bakr et Omar. Il n'y a aucune dua spécifique à faire à part la dua qu'on fait pour les morts quand on visite un cimetière. Assalamu ala ahli diyari min al-mu'minin al-muslimin. Yarhamullahu al-mustaqdimin minkum al-mustaqhirin. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun mulahiqun. Quand on visite n'importe quel autre cimetière, il n'y a pas une dua spéciale à faire devant la tombe du prophète salatu wassalam. Tu vas voir des choses incroyables de tes yeux là-bas. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Vous allez voir, la plupart des bid'ahs, des innovations, c'est là-bas, dans l'Rawda, dans le premier rang, et dans proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Baqir, le cimetière où il y a les sahaba qui sont enterrés, et à Uhud. Il y a un hadith qui est rapporté sur que celui qui fait 40 prières d'affilée dans la mosquée du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, Allah le préservera de l'enfer et de l'hypocrisie. Ce n'est pas un hadith sahih. Ou bien certains autres paroles qui sont rapportées au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui ne sont pas vraies. Où ils disent que celui qui a fait le hajj et qui n'aurait pas visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il s'était détourné de lui. Ou qu'il n'avait pas respecté le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Kadalika. Ce n'est pas une sunna de visiter tous les jours ou après chaque prière la tombe du prophète alayhi salam wa sallam. Tu es venu, tu es passé à côté, tu as fait du'a pour lui. Partout que tu sois, quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala lui transmet ton salam et lui te répond. Kadhalika, si quelqu'un te dit, passe le salam au prophète de ma part. Tu lui dis, passe le salam toi d'ici. Allah il va lui transmettre le salam et lui il va te répondre. Quand on est à midi, il ne faut pas commencer à s'amuser à visiter partout. Al-Khandaq, le Masajid al-Saba'a, le Masjid al-Qiblatay. Ça, ce n'est pas des endroits à visiter. Il y a 3 endroits où on peut visiter si on veut. Masjid al-Quba, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tatakhara fi baytihi » Celui qui se purifie, qui fait le wudu chez lui, et qui va à Masjid al-Quba pour faire 2 rak'at, Allah lui inscrit une umra. Et la sunna, c'est d'y aller au Masjid, le samedi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait des fois à pied, des fois en monture, il allait, il faisait 2 rak'at, il revenait. Et le mieux, c'est d'y aller en dehors des salats mafrouda. Par exemple, la matinée. Ou entre dhuhr et l'asr. Comme ça, on ne va pas salat al-farida à la mosquée du prophète. Autre endroit qu'on peut visiter, Al-Baqiya, qui est le cimetière où il y a les Sahaba, et parmi les ulama qui sont enterrés là-bas, les Tabi'in, ou l'Aïmma, et d'autres parmi les musulmans. Dans le Baqiya, personne ne sait vraiment qui est enterré où. Ne cherchez pas, ça ne vous sert à rien de savoir qui est enterré où. Même les plans qui existent et les paroles qui existent dans les livres, la plupart, c'est des choses qui ne sont pas vérifiées, ni vérifiables. Vous savez qu'à Médine, depuis 1400 ans, il y a eu des inondations, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de choses. Tu sais qu'ils sont enterrés ici, dans le Baqir. Tu fais du'a pour eux et tu te rappelles de l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, visitez-les maintenant, tu visites. Et attention là-bas aussi, ils vont te vendre à la sortie des graines pour les oiseaux. Ils vont dire ça, c'est si t'as mal fait ton hajj et tout, c'est pour faire pardonner ton hajj, tu jettes des graines aux oiseaux. Tout ça, c'est des innovations, il ne faut pas les faire. Ah. Un autre endroit que tu peux visiter, Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Uhud, c'est une montagne qui nous aime et nous, on l'aime. Là-bas, on va aller passer salam aux martyrs, Hamza, Mus'ab ibn Umair, et les sahaba qui sont morts là-bas à la bataille de Uhud. On va leur faire du'a pour eux, on médite. On est là-bas, on dit, subhanallah, c'est ici qu'il y a eu la bataille de Uhud. Et on pense que mon rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait casser sa dent, il s'est fait blesser à cet endroit-là. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont désobéi à un de ses ordres. Alors aujourd'hui, tous les hujjaj et les Omar, ils vont là-bas. Combien de péchés, combien de bid'a ils font? Comment ils veulent qu'Allah Ta'ala les aide? Juste, ils ont désobéi à un ordre du prophète, alayhi salam, ils se sont fait battre. À part cela, à Médine, il n'y a rien de spécial à faire. On prie dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on participe aux assises des ulama. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez en profiter pour poser des questions, mais il y aura beaucoup de monde. Maintenant qu'on a parlé de Médine, on revient à notre voyage, comme on avait expliqué la dernière fois. Quand on va Al-Madina jusqu'à Mecca, à partir de quand on doit faire l'Ihram? À partir du moment où on dépasse Dhul Hulayfa, Al-Miqat. Quand on arrive à Dhul Hulayfa, la personne va enlever ses vêtements, fait le ghusl comme ghusl al-Janaba, les grandes ablutions, et il se parfume le corps. Il ne met pas le parfum sur l'Ihram. Si ça touche l'Ihram, ce n'est pas grave.
Tu le laves.
Avant de rentrer dans le Nusuk. Mais après, tu ne pourras pas toucher le parfum. Si tu as besoin raser les poils sous les aisselles, au pubis, et couper tes ongles parce qu'ils sont longs, tailler ta moustache, tu en profites. Si tu n'as pas besoin, ce n'est pas une sunna de le faire. Pour les femmes, elles peuvent mettre un parfum qui ne sont pas forcés de dire un déodorant, comme ça a été Aïcha, elle l'a mis. Une fois qu'on a fait le ghusl, on s'est parfumé, on met l'ihram. C'est interdit de mettre une épingle à nourrice. Tu n'as pas le droit de mettre ni une épingle à nourrice, ni un clips, ni rien. Tu ne découvres pas l'épaule que quand tu fais tawaf al-qudum. Tu caches comme ça tes épaules. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire la prière à un homme et qu'il n'y a rien sur ses épaules. Donc quand tu fais la prière, tes épaules elles doivent être couvertes. Donc l'homme, il met ses sunnahs de mettre deux rida blancs, c'est-à-dire un izar, et le deuxième sur ses épaules. La femme, elle ne change pas de vêtements, elle ne met pas une couleur de vêtements spécifique. La seule différence, elle ne met pas le niqab et les gants. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se couvre pas le visage, elle ne se couvre pas les mains. Comme l'homme. Quand on lui dit, il ne met pas son pantalon et son dessus, est-ce que ça veut dire qu'il ne met rien dessus? Et c'est ça l'ihram pour la femme, c'est qu'elle ne met pas quelque chose qui est détaillé pour le visage. Le niqab, c'est détaillé pour le visage, avec les yeux ou sans les yeux. Et les gants, c'est détaillé pour les doigts. Elle l'enlève et à la place, elle fait tomber son voile. Il y a des sœurs, il faut coudre un voile sur leur hijab, sur leur khimar, de l'intérieur, ça tombe dessus. C'est pas attaché par derrière, ça c'est permis. C'est pas un niqab. Le niqab, c'est celui qui se met comme ça et il s'attache derrière. Même si ça touche le visage. Et pour les mains, elle peut les cacher sous sa abaya, sous son khimar, si elle veut les cacher. On est venu voir Asma, bint Abi Bakr, radiallahu anha. Les femmes, elles sont venues lui demander, ya Asma, comment la femme, elle se met en ihram? Elle a dit, elle enlève le niqab et les gants, et elle fait tomber un voile sur son visage. Commencez pas à vous mettre en groupe, faire des photos. Ah, j'ai fait le hajj, j'ai fait des photos. Faites pas de photos. Maintenant, il y a d'autres sensations. Tu vas montrer aux gens, regarde, j'ai fait le hajj. Alors que le hajj, c'est une ibada. C'est comme si tu te prenais en photo en train de faire salat. Ou tu te prends en photo en train de faire sahur, en train de faire ça, c'est yam ramadan. C'est exactement pareil. Après cela, si tu as fait une prière obligatoire, c'est bon. Tu n'as pas besoin de refaire de rak'a. Si tu n'as pas fait une prière obligatoire, tu vas faire sunnat al-wudu et tahiyat al-masjid en même temps rak'atayn. Il n'y a pas de rak'a de sunnat spécifique pour l'ihram. Et tu sors. Et une fois que tu montes sur le bus, au début tu fais un peu takbir, tahlil ou tahmid, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quand le bus va commencer à démarrer, tu dis labbaik Allahumma umra. L'important c'est la niya, l'intention. Ça c'est talbiya, ce que tu dis avec ta langue. Tu dis labbaik Allahumma umra, Et tu peux rajouter une parole.
Allahumma mahilli.
حيث حبستني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne lui a demandé au messager d'Allah, je veux conditionner mon pèlerinage. S'il m'arrive quelque chose, c'est-à-dire que je peux arrêter en route et rentrer. Je n'aurai pas à le finir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire au miqat, Allahumma mahalli حيث حبستني. Si une chose m'arrive, alors je m'arrêterai là où il se m'est arrivé. Si tu ne dis pas cette parole-là, tu es obligé de finir le hajj ou l'umra. Alors que si tu as mis cette condition, tu as dit cette parole, si tu as une maladie ou si tu as un problème, tu pourras arrêter. Une fois que tu as dit ça, tu vas commencer à faire la talbiya à voix haute. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. S'il commence à faire lui, tu le fais plus. Si tu montes, tu fais plus. Si tu descends, en élevant la voix. Même la femme, elle fait talbiya, mais elle élève la voix un petit peu seulement. Juste pour que sahibatha, sa voisine, elle l'entende. C'est tout. Talbiya, on continue jusqu'à ce qu'on va commencer le tawaf. Quand on arrive à Mecca, on se repose un peu, on va manger, il n'y a pas de mal. Après, on va aller, Inch'Allah, faire tawaf le koudou, mais en même temps, on fait la umra. On rentre dans le Masjid al-Haram, il y a des sunnahs à faire, après on en parle en détail. Toucher la pierre noire, ce n'est pas obligatoire. Et si pour le toucher, il doit pousser les gens et leur faire du mal, ce n'est pas permis d'aller toucher le Hajar al-Aswad. En plus, tous les hadiths qui sont rapportés sur le Hajar al-Aswad, que celui qui le touche, il perd tous ses péchés, il part avec, ou celui qui l'embrasse, c'est comme s'il a embrassé la main de Rahman, tout ça, ça n'existe pas. Donc, là, tu arrives pour faire ton premier tawaf, tu dénudes ton épaule droite. Après ça, plus jamais tu dénudes ton épaule. Si la femme, elle a ses menstrues, elle ne peut pas faire tawaf, elle attendra. On se met face à Hajar al-Aswad, on dit Allahu Akbar, en levant la main. En fait, si on peut le toucher, on la touche et on l'embrasse directement. On peut même se prosterner dessus, comme Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a fait. Si on ne peut pas, on touche, on embrasse sa main, la main droite. Si on ne peut pas, de loin, on dit juste Allahu Akbar, mais on n'embrasse pas sa main. Il n'y a pas besoin de lever les deux mains. Pas besoin de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, deux, trois fois, quatre fois, une fois, Allahu Akbar. Certains, ils disent, tu peux rajouter Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar, parce qu'Abdullah ibn Omar, il rajoutait Bismillah. Mais la sunnah, c'est de dire Allahu Akbar, le takbir. Les trois premiers tours, il y a le mal. Il court pas, il n'a pas. S'il n'y a pas de place, même en marchant sur place, qu'est-ce qu'il va faire pendant le tawaf? Il fait du'a, il fait dhikr, il lit le Coran, et soyez pas barakallahu fikoum comme ceux qui sont pendant le tawaf, ils parlent au téléphone. Et le tawaf, c'est une salade, c'est une ibadah. Ça n'annule pas ton tawaf, quoi, lequel tu perds. Pendant ce moment-là, c'est le moment de faire du'a, c'est le moment de faire dhikr. Donc, un tawaf, les trois premiers tours, permettent. Pour les hommes, les femmes, elles ne le font pas ça. Elle marche tout le temps. Arrivé le Rukmul Yamen, le point yéménite, fait quoi comme dua? Rabbana, atina fi dunya hasana, wa fi l'akhirati hasanatan, wa qina adab Allah. Jusqu'à la pierre noire, on fait cette dua. C'est pas obligatoire, c'est recommandé. On commence le tour en disant Allah Akbar. Et on compte 7 tours. Celui qui a un doute, est-ce que j'ai fait 3 tours ou 4 tours? Il ne sait plus du tout. Il le fait le plus bas. S'il dit, il ne sait plus 3 ou 4, 3 ou 4, il se dit j'en ai fait 3. Et il continue. S'il a fait en plus, marche. Et essaie de compter, même avec son doigt. Premier tour, il fait comme ça. Même le mieux, c'est d'être en compagnie. Une fois qu'on a fini les 7 tours, c'est fini. On couvre les épaules, on ne s'amuse plus à les découvrir. Tu remets ton rida et tu vas aller vers Maqam Ibrahim. Alors, ce n'est pas la peine de venir prier juste derrière. C'est impossible. Les hommes vont vous marcher dessus. Tu pries n'importe où derrière. Même n'importe où dans la mosquée, c'est valable. Tu te mets loin, un endroit tranquille, et tu prends une soutra. Comme ça, t'es à l'aise. Quand tu vas à Maqam Ibrahim, tu dis quoi? وَالْتَخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى. Tout ça, c'est des choses en plus. Celui qui ne dit pas son hajj est sahih. Il fait deux rak'at, khafifate, légère. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, dans rak'at oula, deuxième rak'at, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Quand t'as fini, tu vas voir Zemzem. Tu t'en mets aussi sur toi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, la différence entre le munafiqin et les hypocrites et nous, c'est que nous, on se remplit les côtes des zemzem. Par dalika, si tu peux, mais ce ne sera pas possible, tu reviens toucher la pierre noire, tu vas aller après ça faire à Safa. Pour faire al-sa'i bayna as-Safa wal-Marwa. Et en montant sur Safa, on dit inna as-Safa wal-Marwa min sha'airillah, faman hajja bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Abda'u bima bada Allahu bih. On monte un peu sur le mont Safa, on se met face à la Kaaba, on dit trois fois la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu, wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Puis après tu fais la dua que tu veux. en levant les mains vers la Kaaba. Tu fais le maximum. Après, tu commences à marcher vers Marwa. Sur ta route, tu vas passer un moment où il y a les deux lumières vertes. Tu cours un petit peu, jusqu'à la prochaine lumière verte. Et tu fais zikrullah, tu crois le Coran, tu fais dua. Jusqu'à Marwa. De Safa à Marwa, 1. Arrivé à Marwa, tu fais la même chose que Safa. Tu te mets face à la Kaaba, tu fais la même dua. Tu repars vers Safa. Ça, ça fait 2. Troisième, pareil. 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire, tu finis à Marwa. Une fois que tu as fait ça, tu te rases les cheveux ou tu te les coupes tous pareils. Et pour la femme, elle coupe au minimum, ne serait-ce que la taille d'une phalange. Ça y est, t'as fini ta Umrah. C'est ça la Umrah de Qudum dans Tamattu. C'est mieux pour l'homme, si on n'est pas loin du Hajj, de tailler court plutôt que de raser. Comme ça, comme le Hajj va bientôt arriver, après il pourra raser. C'est mieux. Mais il n'a pas le droit de couper comme ils font, un petit peu là, un petit peu. Il faut ou tailler tout, ou raser tout. Si tu fais ça, tu mets tes vêtements, etc., t'es encore en ihram. Et si tu fais le jimar, t'étais encore en ihram. Le plus important et le plus grave, c'est quelqu'un qui fait l'acte avec sa femme ou la femme avec son mari pendant l'ihram. Ça, ça annule le hajj. Celui qui fait ça, il est obligé de faire tawba, de finir le hajj et de revenir l'année prochaine. Taïb, une fois qu'on a fait ça, la umrah c'est fini. Ça peut prendre 2 heures comme ça peut prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures ou 7 heures. Donc c'est pour ça que je vous dis reposez-vous avant d'y aller. Quand on fait ce tawaf, sa'i bayna as-safa wal marwa, c'est permis de s'arrêter, de boire un peu d'eau et de continuer. Si quelqu'un perd le wudu dans le tawaf, c'est mieux pour lui normalement faire le wudu et recommencer le tawaf que la majorité des savants. Mais sahih, Allahu a'lam, c'est qu'en vérité, son tawaf il est sahih. Il n'a pas besoin de wudu pour faire tawaf. Mais quand il va entre Safa et Marwa, ça il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin d'aller faire des ablutions. Il continue. Et si vraiment il est pressé, il a besoin de, par exemple d'aller aux toilettes, quand il fait ça entre Safa et Marwa, il y va et il revient où il était et il continue. Alors que le tawaf, les 7 tours du tawaf autour de la Kaaba, ça doit être suivi. Sauf si on s'arrête un petit peu un moment. Si on part carrément jusqu'à l'hôtel, refaire l'ourdeau ou aller aux toilettes et revenir, il faudra recommencer les 7 tours du tawaf au début. Quand on a fini ça, la Umra elle est finie. Et là maintenant on va rentrer dans le Hajj. Le Hajj pour nous, une fois qu'on aura fait la Umra, ça va reprendre Yawm al-Tarwiyah. C'est le 8e jour de Dhul-Hijjah. Là on doit re-rentrer en Ihram. Dans notre hôtel on fait le ghusl. Même la femme qui a ses menstrues, si elle est pure avant le jour de Arafat, c'est-à-dire le 8e jour, elle pourra se mettre en Ihram, aller faire sa Umra, elle coupe ses cheveux. Puis après, elle refait un ihram pour aller à Mina. Walakin, si elle ne s'est pas purifiée jusqu'au jour de Arafat, elle fait l'ihram, elle va à Arafat, elle fait le ghusl, même si elle a ses menstrues. Mais cette fois, elle met niyat al-qiran. En fait, son tawaf al-ifada à la fin, ça va être sa umra et son hajj en même temps. Et en fait, Aïcha, radiallahu anha, c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça qu'elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sortir au hil. Elle a fait le qiran, parce qu'elle a eu une excuse. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit de sortir al-hil. À l'endroit qu'ils appellent maintenant Masjid Aïcha. Et de là-bas, elle a fait l'Ihram et elle est revenue faire juste une Umra. Maintenant, beaucoup de gens croient que c'est permis de faire plusieurs Umra dans le même voyage. Mais ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, ils faisaient une Umra par voyage. Tu ne ressors pas à Masjid Aïcha, tu refais l'Ihram, tu reviens faire une Umra, tu ressors à Masjid Aïcha. Ça, c'est la sunna. Tu fais une Umra par voyage. Aïcha, elle avait une excuse pour faire une autre Umra. Toi, tu n'as pas aucune excuse, tu as déjà fait une Umra. Maintenant, Yawm al-Tarwiyah. Le 8e jour, Yawm al-Tarwiyah, tu fais le ghusl, tu mets l'ihram comme au miqat et tu vas partir aux tentes de Mina. Dans la matinée, si tu peux y aller, tu vas. Tu vas diminuer les prières de 4 rak'at comme le dhuhr et l'asr sans les réunir. Dhuhr à son heure, 2 rak'at. L'asr à son heure, 2 rak'at en jama'a, en groupe. Le maghrib à son heure, 3 rak'at. Et l'isha à son heure, 2 rak'at. Puis tu dors là-bas cette nuit-là et le matin, tu fais salat al-fajr. À partir d'après le fajr jusqu'à dhuhr ou jusqu'à après dhuhr, tu vas à Arafat. Donc tu arrives à Arafat avant le coucher du soleil. Mais normalement bien avant. Arrivé à Arafat, tu essaies d'aller à la mosquée là-bas, faire dhuhr et l'asr à l'heure de dhuhr. 2 rak'at dhuhr, 2 rak'at asr en groupe. C'est-à-dire avec un adhan et 2 iqam. Et dans la mosquée là-bas, Monsieur Namira, l'imam il fait une khutba et tu écoutes la khutba, tu écoutes son discours. Après ça, tu vas dans ton coin à Arafat, ta tente qui t'est assignée à toi. Et Arafat c'est tout l'endroit, il n'y a pas besoin de monter sur la montagne pour aller faire dhuhr. C'est le moment le plus important du Hajj, c'est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Hajj ou Arafat. Le Hajj, c'est le jour d'Arafat. C'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala se vante de ses serviteurs aux anges. C'est le jour, il n'y a pas un moment où les dua sont plus acceptés que ce jour-là. C'est le moment le plus important du hajj, c'est là. Là, il faut faire dua jusqu'au coucher du soleil. Il faut attendre que le maghrib y rentre. Et tu ne vas pas faire salat le maghrib. Tu vas partir directement à Muzdalifa.
Il y a de quoi faire les ablutions et les toilettes. Le reste, c'est de la terre et des pierres par terre. Tu vas arriver là-bas dans la nuit. Il faut passer la nuit à Muzdalifa. Sauf certaines personnes, les femmes et les gens faibles, c'est permis qu'ils partent après la moitié de la nuit. Mais les autres, les jeunes, celui qui est fort, celui qui a la capacité, il ne lui est pas permis de partir après la moitié de la nuit. Il doit rester obligatoirement jusqu'à le Fajr. Obligatoire. Arrivé à Muzdalifa, le soleil s'est couché à Arafat. On n'a pas fait le maghrib. Arrivé à Muzdalifa, on va faire quoi? Le maghrib, 3 rakat et l'isha, 2 rakat. Et on dort. Il n'y a pas de sunnah, il ne faut pas prier cette nuit-là ni rien. On fait salat al-fajr, après on fait dhikr Allah, on fait du dhikr, and al-mash'ar al-haram. Si on peut aller dans ce coin-là, c'est bien. Sinon, dans où on est, on essaie de faire un peu de dhikr jusqu'à ce que le soleil devienne bien jaune. Après, on part vers Jamarat. De Muzdalifa, on retourne à Mina. Les Jamarat, c'est-à-dire les stèles qu'on jette, elles sont à Mina. Et on va prendre cette pierre, peu importe où elles sont ces pierres, l'important c'est qu'elles ne soient pas très grosses ni trop petites, entre la taille d'une fève et d'un pois chiche. Et on va jeter Jamarat al-Aqaba. On va passer à côté des deux premières stèles, on ne jette rien le premier jour. Et on va jeter seulement à la troisième stèle, la plus grande. Cette pierre, à chaque fois qu'on jette, Allahu Akbar. Si ça tombe dans le bassin ou ça touche le mur, c'est bon. Il n'y a pas besoin de s'énerver, jeter des claquettes, dit Da'arudlam Shaitan Rajim. C'est pas Shaitan qui est là. Shaitan, il sera dans ta main quand toi tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Une fois que tu as jeté, tu as le droit maintenant de faire tout, sauf de faire l'acte avec ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Sacrifier ta bête si c'est toi qui dois la sacrifier. Si tu as payé quelqu'un pour le faire pour toi, tu n'auras pas à le faire. Il va le faire. Après, tu vas aller te raser les cheveux. C'est mieux de se raser que de se tailler. Tu as le droit de te tailler. Mais si tu te tailles, tu dois tailler partout également. Pas juste quelques cheveux par là, quelques cheveux par là. C'est pas valable. Pour la femme, elle va juste couper un petit peu. Et après cela, si tu as le temps, tu vas faire ton tawaf al-ifada, le tawaf du hajj. Mais le mieux, ce sera d'attendre. Car tu as le jour de l'Aïd à le faire. C'est le jour où tu as fait Jamarat al-Aqaba, plus 3 jours après. Tu as 4 jours pour le faire. Et le premier jour, c'est plein, plein. Le mieux, c'est que tu attends, tu te reposes, tu rentres à Mina, tu peux aller te doucher, tu peux tout faire sauf approcher ta femme. C'est la seule chose que tu n'as pas le droit encore de faire. À condition, tu passes la nuit à Mina. Le mieux, c'est de venir avant le coucher, au minimum, sinon, avant la moitié de la nuit, il faut que tu sois à Mina. Tu passes la majorité de la nuit à Mina, jusqu'au matin. C'est le 10e jour. C'est le jour de l'Aïd. Il te restera quoi à faire? Les 2 jours de Ayam Teshvir, ou 3, et c'est mieux de faire 3, c'est-à-dire le jour de l'Aïd il est passé, il te reste 3 jours à rester à Mina, minimum 2, maximum 3, mais le mieux c'est de faire 3. Chaque jour, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque jour après Dhuhr, tu vas aller jeter 7 pierres sur la première stèle, 7 pierres sur la deuxième, et 7 pierres sur la troisième. Après la première et la deuxième, tu t'écartes, tu te mets vers Mecca, tu fais Dua, longue Dua. Et la deuxième aussi, sauf la troisième. Après la troisième, tu pars directement. Chaque jour, tu vas faire ça. Et après, ou bien le premier jour, ou bien le deuxième ou troisième, avant le troisième jour de Teshrik, il faut qu'on aille faire Tawaf al-Ifada. Le Tawaf du Hajj. Pareil que Tawaf al-Qudum, sauf qu'on dénude pas son épaule et la Narmel, les 3 premiers tours. On va derrière Maqam Ibrahim, on fait 2 rakat, on boit Zamzam, et on fait Sa'i, Bain al-Safa et Marwa. Après ça, tu reviens à Mina. Tu es obligé de rester minimum 2 jours. Chaque jour, tu dois aller jeter les 3 stèles, 7 pierres. Le 11e et le 12e jour de Dhul-Hijja, si tu n'es pas sorti avant Salat al-Maghrib, le 12e jour de Dhul-Hijja, tu es obligé de rester jusqu'au lendemain et de jeter les pierres. Moi, je vous conseille de rester le 3e jour. C'est le 12e jour de Dhul-Hijja où il y a le Zahna. Les gens, ils se poussent, ils sont pressés de partir. Pourquoi? Juste pour aller au souk. Au lieu de gagner la récompense, rester 1 jour de plus au Hajj, ils sont pressés de retourner à l'hôtel pour aller au souk. Alors que là-bas, tout ce que tu le trouves ici. Ça vient de Chine. C'est la même chose. Sauf vraiment quelques trucs rares. Il n'y a que les dates, le zenzen que tu peux emmener là-bas. Là. Tu restes le 3e jour, on va dire, de Teshrik. Après le vol, tu vas jeter les pierres. 7 pierres à la première stèle. 7 pierres à la deuxième stèle. 7 pierres à la troisième stèle. Après la première et la deuxième, tu fais 2 arcs. Après la troisième, tu ne fais pas de dua, tu pars directement. Une fois que tu as fait ça, le hajj il est fini. À partir de là, tout est halal pour toi. Tu peux même t'approcher de ta femme et ta femme peut s'approcher. Tant que tu n'as pas fait le tawaf autour de la Kaaba et Sa'i pour le hajj, tu n'as pas le droit d'approcher, c'est-à-dire de faire l'acte. L'approcher, être à côté d'elle, c'est permis, mais tu n'as pas le droit de faire l'acte.